je pensais véritablement que les économistes mainstream allaient changer. La reine Elisabeth a écrit à une association d'économistes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vu ça arriver? La reine Elisabeth a posé la question. Les économistes ont dit oui, bon, peut-être qu'on a fait des petites erreurs. Mais en gros, ils pensent toujours que le présupposé de départ est exact et ne veulent pas en démordre.
Donc oui, effectivement, cette croyance dans le bienfait du marché, elle dépasse le caractère rationaliste, scientifique, si on veut. Elle est clairement une croyance qui est quasi absolue. Le marché est vraiment une fin en soi. Le marché n'a jamais tort. Même un mauvais marché sera toujours meilleur qu'une bonne réglementation. Donc en fait, il vaut encore mieux favoriser le marché, même quand le marché a quelques effets négatifs sur l'économie et la société, que de vouloir remplacer le marché par de l'intervention publique directe. Par contre, l'État intervient, mais l'État intervient uniquement pour permettre au marché et à la concurrence d'être les plus étendus possibles.
If we regulate markets through a democratic process,
si on régule les marchés via un processus démocratique, les marchés sont de fait contrôlés par ce processus.
We have a situation where we insist on the markets being.
Si on insiste sur le fait que le marché à court terme est libre, entre guillemets, le marché peut dominer la société et créer des poches de richesses excessives. Et ces poches permettent à des individus riches, à des entreprises riches, d'avoir un contrôle indu et disproportionné sur le gouvernement. Ce qui est bien évidemment une situation non démocratique. Et c'est la situation que nous connaissons de plus en plus aux États-Unis et dans d'autres pays.
Au fond, lorsque Michel Foucault parle de la gouvernementalité, c'est-à-dire de la façon dont est gérée la souveraineté au niveau des pouvoirs publics, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise parce que beaucoup d'entreprises sont plus puissantes qu'une majorité d'États membres de l'Organisation des Nations Unies. Et il n'y a pas de dispositif pour le moment pour les faire rentrer dans le rang. Ça, c'est peut-être aujourd'hui un des problèmes majeurs du système de pouvoir néolibéral. Et évidemment, c'est triste que Michel Foucault ne soit plus là, puisque, évidemment, lui qui a vu de façon quasiment prophétique émerger le courant néolibéral serait prodigieusement intéressé par le dérèglement de ce système à travers cette mise en compétition qu'on voit tous les jours des États nationaux par les firmes multinationales qui disent bah écoutez, je veux bien venir m'implanter chez vous, mais alors il faut que vous me fassiez un environnement juridique, social, hospitalier, hein, et nous nous comprenons.
Aujourd'hui, la seule instance politique qui soit en mesure de faire contrepoids aux entreprises, ce sont des puissances impériales. Et pour le dire en bref, c'est la Chine et les États-Unis. L'Europe pourrait le faire si l'Union européenne n'était pas dans l'état où elle est. Mais c'est un être qui n'a ni tête politique ni base démocratique. Alors c'est assez mal armé pour la survie entre les deux autres grands empires. Mais les États-Unis actuellement se sont dotés des outils qui leur permettent, quand leur intérêt le commande, d'imposer leur volonté aux grandes entreprises.
Le pouvoir du capital, à mon avis, dépasse aujourd'hui le pouvoir politique dans la mesure où le pouvoir du capital, il n'est pas explicité, il n'est pas visible, il est dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens qui sont censés nous rendre compte, donc les politiques, ne sont pas les véritables maîtres du jeu. C'est-à-dire que ce qui a quand même été la répartition du pouvoir dans le monde occidental du siècle dernier, c'est une forme de séparation des pouvoirs, où le pouvoir politique était censé être le réceptacle de la recherche de l'intérêt général. Et le pouvoir financier, l'émanation de l'ancien régime, qu'il fallait contenir d'une manière ou d'une autre. Okay. Et là, du fait du passage de l'économie d'endettement à l'économie de marché financier, du fait d'une financiarisation inouïe de l'économie, on se retrouve avec le pouvoir politique qui n'a plus les moyens de sa vision.
Et on arrive à cette situation très paradoxale qui est la situation contemporaine, où on a d'un côté des dirigeants politiques qui nous disent l'État, c'est comme une entreprise, Startup Nation. Donc l'État sera une entreprise qu'il faut gérer comme une entreprise, avec un budget comme une entreprise, ce qui du point de vue juridique est quand même d'une grande bêtise. Et puis, d'un autre côté, on nous dit les entreprises doivent se soucier de la nature, elles doivent lutter contre les inégalités, financer des hôpitaux, c'est-à-dire elles devraient se charger de ce dont l'État ne se charge plus. Donc ça, c'est plutôt les symptômes des désordres de la globalisation que d'une pensée réfléchie sur l'articulation entre pouvoir économique et pouvoir politique.
Il y a une réunion tous les ans, le premier week-end de janvier, qui réunit 12 000, 15 000 économistes dans une ville américaine, où des économistes du monde entier se rassemblent. C'est un énorme show. Et il y a trois ou quatre grands discours d'économistes très connus. Et il y a deux ans, une économiste française, extrêmement connue, qui s'appelle Esther Duflo, a fait un discours qui s'intitulait littéralement « L'économiste comme plombier ». Dans lequel elle disait, voilà, elle défendait que le rôle de l'économiste aujourd'hui, ça devait être d'étudier les tuyaux, de réparer les fuites, etc. C'est une économie du développement, donc c'est au lieu d'avoir des grandes théories, elle défendait l'idée qu'au lieu d'avoir des grandes théories, il valait mieux aller sur le terrain, regarder par exemple en termes de développement, au lieu d'avoir une théorie du développement, comment est-ce qu'on pouvait faire pour envoyer plus d'enfants à l'école, est-ce qu'il fallait plus de vaccins, est-ce qu'il fallait plus de livres, est-ce qu'il fallait les vermifuger, est-ce qu'il fallait leur donner des moustiquaires, etc. Et donc que ce rôle devait être ça. Et donc vous imaginez bien que si les économistes qui déjà se pensent c'est plus philosophe, mais physicien, puis ingénieur, puis maintenant plombier, leur rôle ne peut pas être de concevoir de nouveaux systèmes sociaux, de penser des rapports de force hyper larges et de penser l'arc de l'évolution du capitalisme. Les économistes ont abdiqué ce rôle et on le voit dans les entités que revendiquent les économistes et ça laisse une chaise vide sur comment penser un bon système, y compris un bon système économique. Et toute la question, c'est qui va prendre cette place ?
Gramsci définit la crise comme le moment où le vieux monde résiste encore et le nouveau peine à naître. Grâce au soutien des États, le néolibéralisme résiste encore quand le mercantilisme renaît de ses cendres. Qu'il vienne de Chine ou des États-Unis, un nouveau modèle économique apparaît sous nos yeux, un pouvoir avide de territoires à conquérir, impérialiste sur le plan économique.
Est-ce que nous sommes à la fin d'une configuration historique particulière, c'est-à-dire à la fin de ce que les économistes de la régulation ont appelé un régime d'accumulation? Autrement dit, est-ce que nous vivons une période de crise? Alors, je reformule la question de cette manière, qui doit être un peu déconcertante, tant la réponse semble aller de soi. Ben évidemment, on est en crise. On n'arrête pas de parler de crise. On parle de crise tout le temps. Du reste, ça fait pas loin de 40 ans que nous sommes supposés être en crise. Alors là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr, parce qu'une crise qui dure 40 ans, on est à la limite du cercle carré. Donc il faut commencer à se poser des questions conceptuelles. Et là encore, en faisant la différence des appréhensions de sens commun et des élaborations un peu plus analytiques. Bon, l'élaboration de sens commun de la crise, c'est quand ça va mal. Il y a une crise quand ça va mal. Par exemple, donc c'est la crise saisie comme phénoménologie ou symptomatologie. Il y a du chômage de masse. Ah, ça, c'est un signe de crise. Il y a des énormes inégalités, enfin, un signe de crise. Ou, dans d'autres époques, c'est, il y a une énorme inflation, signe de crise, etc. Est-ce que le chômage de masse est un indicateur de crise? Non. Non, parce que la crise, ça n'est pas quand ça va mal, entre guillemets, parce que d'abord, quand ça va mal, ça dépend des points de vue. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Merci. La crise, c'est quand ça change. C'est-à-dire lorsque se transforment significativement les institutions, la configuration institutionnelle, qui est en quelque sorte l'armature du régime d'accumulation. Donc, si on veut savoir s'il y a crise, posons-nous la question. Est-ce que ça change?
Vous savez, ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est la chute du néolibéralisme. C'est la preuve que le néolibéralisme est profondément une imposture. Parce que ce qui fonde le néolibéralisme, c'est la mobilité des facteurs, capital et travail. C'est le fait de dire, si il n'y a pas d'activité au Togo, mais qu'il y a de l'activité en France, moi, Togolais, je peux quitter le Togo pour aller travailler en France. Et quand est-ce que je m'arrête? C'est quand les opportunités en France seront tellement faibles parce qu'il y aura eu tellement de Togolais qui vont arriver en France, qui sera indifférent de vivre au Togo ou de vivre en France. C'est à ce moment-là que j'arrête le processus de migration du Togo vers la France. C'est ça, le néolibéralisme. C'est le grand marché mondial, avec la mobilité des facteurs, capital et travail. Sauf que dans les faits, il vous faut un visa pour arriver en France. Le visa Schengen, avec tout ce que vous connaissez comme étant le parcours du combattant. Okay. Donc, on a des barrières à l'entrée qui font que la régulation néolibérale ne s'effectue jamais.
Et il me semble que c'est le grand retour de l'État. J'ai l'impression, je ne suis pas le seul évidemment, que l'État, la réorganisation de l'économie par l'État, c'est quelque chose qui est devant nous. Et que finalement, le libéralisme et l'ultralibéralisme tel qu'on a pu le connaître, il va continuer à s'appliquer dans certains pans de la société, en particulier pour le marché du travail des déqualifiés, des gens qui sont peu qualifiés ou déqualifiés. Il va continuer à s'appliquer pour un certain nombre de marchandises, de biens et services à l'intérieur des États-nations. Mais que ces États-nations vont être de plus en plus en compétition les uns avec les autres. Et que finalement, la militarisation, la remilitarisation des États-nations depuis une dizaine d'années, l'explosion des budgets militaires, et en particulier l'explosion des budgets des marines nationales d'un grand nombre de pays dans le monde, va nous amener vers une forme de réétatisation de l'économie, c'est-à-dire une économie qui est de nouveau belliqueuse au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire mercantiliste au sens du XVIIe siècle, au sens où les États vont de nouveau imposer leurs entreprises, si possible leurs grandes entreprises monopolistiques, sur d'autres terrains d'intervention que les leurs, dans des pays moins puissants, dans des zones plus malléables, je dirais, en ne passant pas par des institutions libérales.
La Chine est dans ce qu'on appelle le néo-mercantilisme. Vous savez,